Chapitre 4 Potolé. Ce fut Julie, la curieuse, qui rompit le silence. Rien met la puce à l'oreille de ces chères ambitieuses. Le temps de draper un châle ou de passer un fichu, les voilà parties pour le pays des rêves et en train déjà de bâtir le dernier étage d'un château en Espagne. « Qu'as-tu donc à me dire, André ? » demanda-t-elle. « Eh bien, peu de choses, chérie, » répondit le jeune ciseleur, « sinon que je suis en disposition d'esprit singulière. Et cela dure déjà depuis plusieurs jours. En travaillant, je songe. La nuit, je ne peux pas dormir. »«
C'est comme moi, » murmura Julie.
« Oui, comme toi. Et c'est toi, peut-être, qui a commencé. » Julie ne répliqua point. « Nos cœurs sont si près l'un de l'autre, » poursuivit André, « qu'il y a entre eux contagion de pensée. Je ne crois pas que tu puisses former un désir sans que j'aie le besoin de le satisfaire. »
« Voilà qui est bien grave, » dit Julie en se forçant à rire.
« Ai-je péché ? Alors gronde vite !» Ils arrivaient au bout de la place des Acacias. Il y avait un banc de bois, derrière lequel un réverbère pendait à deux arbres. André s'arrêta et s'assit, faisant avec son bras arrondi un dossier à la taille de Julie.
« Je ne gronde pas, » reprit-il en baissant la voix et plus affectueusement. « Est-ce toi, est-ce moi, qu'importe ? Il se peut que nos deux pensées naissent ensemble. » « Ce qui est certain, c'est que nous nous sommes agités tous deux, et qu'il y a pour nous quelque chose dans l'air, comme si notre condition allait changer. »«
Dieu le veuille !» fit étourdiment la jeune femme. Il y eut un silence, et Julie, toute repentante, ajouta. « Mon André, tu sais si je suis heureuse avec toi ?»«
Je le sais, chérie, du moins je le crois. Et si je ne le croyais pas, que deviendrais-je ?
Mais tu as du sang de grande dame dans les veines, et je t'en aime mieux pour cela. Ces toilettes que tu regardes t'iraient si bien. » Il semble qu'elles sont à toi, ma femme, et que les autres t'en les ont volées.
Julie l'appela fou, mais elle lui donna son front à baiser.
La lumière suspendue que la brise nocturne balançait, éclairait par derrière des masses de sa riche chevelure et brillantait le duvet de son profil perdu. André Ménant était à l'une de ces heures où l'extase trouve ouvertes toutes les portes du cœur, et Julie à l'un de ces moments où la beauté même, embellie, rayonne d'étranges éblouissements. André regardait ses yeux, pleins de lueurs mystérieuses. Il lui semblait qu'on pouvait boire sur ses lèvres des ivresses parfumées. Les tièdes haleines de cette nuit d'été lui donnaient des frissons profonds où l'angoisse inexplicable se mêlait à d'indicibles voluptés. Julie, veloutant sa voix sonore et douce, demanda pour la seconde fois.
« André, qu'as-tu donc à me dire ?»«
Tu es heureuse, » répondit celui-ci. « Tu m'aimes, mais tu n'es pas dans ta sphère. Quand je pense à toi, je te vois toujours exilée. Les femmes de notre pays interrogent souvent la destinée. » Julie se mit dans l'ombre pour cacher sa rougeur. « Enfant chéri, » poursuivit André, « si le présent te plaisait, chercherais-tu l'inconnu à venir ?»«
Ne peut-on demander aux cartes autre chose que la fortune ?»
murmura la jeune femme.
« Quoi donc ?»«
Quand je te voyais passer, là-bas, dans la campagne de Sartène, j'arrachais les feuillettes des marguerites une à une et je disais « M'aime-t-il un peu, beaucoup ?»
André lui ferma la bouche dans un baiser.
« Passionnément. » acheva-t-il d'un accent presque austère. « Vous n'avez pas besoin des cartes pour savoir cela, Julie, ni des fleurs. »«
C'est vrai !» s'écria-t-elle en jetant ses deux bras autour de son cou. « J'ai essayé de mentir. Tu m'as dit vous et je suis punie. »«
Non, ce n'était pas pour savoir comme tu m'aimes que j'ai fait les cartes. Il y a des jours où j'ai peur. »«
Sommes-nous assez loin de ceux qui te haïssent ?»
Puis, secouant sa tête charmante et de cet accent résolu qui dit la vérité.
« Mais non !» poursuivit-elle. « Ce n'était pas cela, André. » Ou du moins, c'était pour autre chose encore. C'était pour savoir si tu montrais un jour à ta vraie place. Est-ce que tu n'es pas trop au-dessous de ton état ?
Et que répondent-elles, les cartes ? Julie hésita, puis, prenant gaillardement son parti, elle répliqua d'un ton de franche gaieté.
« Ce soir, les quatre as sont restés. »
« Cela signifie ?»«
Voiture à quatre roues, monseigneur. Nous roulerons carrosse. »
« Et que tu seras adorablement belle là-dedans, chérie, » conclut André avec un enthousiasme d'enfant.
« Écoute, » poursuivit-il, « qu'il ne risque rien à rien. Je suis 10 fois plus ambitieux que toi pour toi. Il est temps de commencer la bataille. Si tu veux, nous allons partir pour Paris. »
Julie poussa un cri de joie et battit ses deux belles petites mains l'une contre l'autre. Puis, la réflexion venant, elle répéta, non sans effroi, « Pour Paris ?» Ce nom-là, pour une imagination ardente comme était celle de Julie, a presque autant de menaces que de promesses.
« Il faut beaucoup d'argent pour réussir à Paris. » ajouta-t-elle.
« Comptons,
dit André qui l'attira contre lui. Les caresses de sa voix étaient de bon augure et semblaient dire « Tu vas bien voir que nous possédons un trésor !» Julie était, Dieu merci, tout oreille. « Nous avons commencé ici, » reprit André Ménotte, « avec les 3 000 francs qui étaient dans ma ceinture quand nous arrivâmes de Corse. Il est vrai que nous sommes à Caen et que nos débuts ont été plus que modestes. Mais si on n'a pas besoin ici de fonds considérables pour s'établir, les débouchés sont petits et rares. Je regarde notre pauvre succès comme un miracle. À Paris seulement, dans notre patrie, on peut arriver à la fortune. » Julie approuva d'un signe de tête. « L'armurier Cotin, » poursuivit André, « m'a offert hier 12 000 francs de nos marchandises et de mon achalandage. » Julie eut un mouvement de joyeuse surprise. « Il en donnera 15, » ajouta André Ménotte, « mais ce n'est pas tout. Monsieur Mansel, le banquier, va m'acheter le brassard. »« Lui, si économe ?» C'est un ricochet de sa manie. Ce soir, après m'avoir parlé de sa caisse pendant 2 heures, et comme j'allais me retirer, il m'a dit « Donnez-vous beaucoup à vendre comme cela des brassards ?» Je ne devinais pas où allait sa question. Il s'est expliqué ajoutant « Bon engin pour les voleurs, cela, monsieur Ménotte. Vous comprenez bien qu'avec un homme qui vend des brassards, on n'est pas en sûreté dans une ville. » Et comme je ne saisissais pas encore « Parbleu, a-t-il repris, avec vos brassards, il n'y a pas d'ingénieux système qui tienne. Que peut ma mécanique? Étreindre le bras d'un larron? Eh bien, si le larron a un brassard, il retirera son bras tout doucement et s'en ira avec mes écus, laissant ce coquin le fourreau entre les griffes de mon système. » Julie éclata de rire bruyamment, et sa gaieté, comme il arrive aux heures de surexcitation, dura plus longtemps qu'il n'était à propos. « C'est pourtant vrai, dit-elle, que le brassard vaut une clé pour ouvrir la caisse de M. Mansel. » « Je me suis engagé sur parole à ne plus vendre le brassard, » continua André. « Moyennant quoi, il m'achètera le nôtre au prix de 1 000 écus. Je lui porterai dès demain matin, car il a grande hâte de jouer lui-même au voleur avec sa mécanique. » « Cela fait 18 000 francs, » supputa Julie. André sortit de sa poche un portefeuille qu'il ouvrit et qui contenait 14 billets de 500 francs. Au moment où Julie se penchait pour les regarder, la nuit suffit subitement, et un gros rire éclata derrière eux. C'était le père Bertrand, l'éteigneur de réverbères, qui leur jouait ce tour. Voyant de loin deux amoureux sur un banc, à cette heure indue, le bonhomme s'était approché à pas de loup. Un guéluron qui aimait plaisanter avec les bourgeois. « Par à trois, dit-il, si on casse la tirelire de Monsieur Mansel. » Comment se fâcher, et à quoi bon? Le brave père Bertrand eut un verre de cidre, versé par la blanche main de Julie Ménotte, et tout le monde alla se mettre au lit. 25 000 francs, Paris, la voiture promise par les 4 As. Notre Julie eut de beaux rêves. Elle dormait à 2 heures du matin, et quand tout entier faisait de même, y compris les 50 donjons. Mais André veillait. Le sommeil appelé ne voulait pas venir. André se tournait, se retournait entre ses draps brûlants. Il avait le cœur serré, il souffrait. C'était un caractère doux, simple et tendre, mais c'était une intelligence d'élite. Sa vie jusqu'alors n'avait point manqué d'aventure, car il venait de loin. Et il avait fallu tout un roman sombre et mystérieux pour mettre dans ses bras d'artisan la fille déshéritée d'une noble race. Mais ce roman s'était noué en quelque sorte au gré de la destinée. André et Julie avaient, dans leur passé, d'étranges périls évités, mais point de combat. André en était là encore à éprouver sa force. À de certaines heures, il avait conscience de l'énergie indomptable qui était en lui à l'état latent, et qu'aucun danger suprême n'avait encore sollicité. Alors il se redressait dans sa puissance inconnue, croyant rêver. Il défiait l'avenir, il appelait la bataille car toute victoire a des couronnes. C'était un de ces instants. André rêvait de luttes futures et s'étonnait du mystérieux besoin qu'il avait de bondir dans l'arène. 2 heures sonnant, un homme traversa le pont de Vaucelles et s'arrêta au milieu, jetant un regard rapide devant et derrière lui. Les alentours étaient déserts. L'homme dépouilla lestement une blouse grise qu'il portait, la roula avec son bonnet de laine rousse, et lança le paquet dans la rivière après y avoir attaché un fort caillou. Puis, vêtu qu'il était d'un pantalon en cotonnette bleue, tête nue et en bras de chemise, il prit un traversant sur la droite de la route d'Alençon. Il avait quelque chose dans un foulard, ce n'était ni dur ni lourd, et cela ne le gênait point pour sauter les talus. Il marchait très vite quand il trouva un couvert. En plaine, il allait les mains dans ses poches, le dos voûté, les jambes flageolantes. Vous eussiez dit un paysan ivre qui a perdu le chemin de son logis. Cela se rencontre en Normandie comme ailleurs. Il faisait de longs détours pour éviter les métairies parsemées dans la campagne. Un chien qui hurlait au loin l'arrêtait tout tremblant. Ses yeux vifs et inquiets perçaient la nuit. Nous avons déjà vu Monsieur Lecoq dans des situations bizarres et difficiles. Sa conversation avec J.B. Schwartz, le mensonge de son rendez-vous amoureux, son voyage interrompu, le soin qu'il avait pris de cacher sa voiture et son cheval, son déguisement, son retour à la ville, son affût sous la porte cochère pour épier le passage du commissaire de police, et surveiller la façon dont le même J.B. Schwartz accomplirait sa mission, en apparence si futile. Enfin, sa visite au papa Lambert, le cabaretier du cul de Saxe-Saint-Claude, nous ont mis surabondamment à même de deviner que M. Lecoq faisait un autre métier que celui de commis-voyageur en coffre-fort. Dans ces diverses circonstances qui toutes dénonçaient une bataille prochaine, la physionomie de M. Lecoq pour nous ne s'est point démentie. Nous avons vu un gaillard hardi, résolu froidement et portant dans l'accomplissement d'un périlleux projet une sorte de gaieté de mauvais goût. Tel était l'homme, en effet, mais il y a l'affaissement qui suit la bataille gagnée. Il y a surtout le poids énorme du butin conquis. Regardez autour de vous et voyez la différence profonde qui existe entre le combattant fanfaron, espérant tout, ne craignant rien, et le vainqueur qui a désormais quelque chose à perdre. Ce foulard noué aux quatre coins, mis dans une balance, n'aurait pas enlevé le poids d'un kilogramme. Il écrasait pourtant Monsieur Lecoq, au point que nous aurions eu peine à le reconnaître. Cet effronté luron de tout à l'heure, nous l'eussions retrouvé inquiet, craintif, malade. Son front avait de la sueur froide. De loin, il prenait les chaînes pour des gendarmes. Par moments, il parlait tout seul. Il parlait de J.B. Schwartz, du papa Lambert, le cabaretier du cul de Saxe-Saint-Claude, et d'un autre personnage encore qu'il désignait sous ce nom bizarre, l'habit noir. Il disait « Une autre fois, je ne partagerai avec personne. » Et le bruit d'une branche agitée par le vent lui donnait le frisson, et le pas furtif d'un lièvre arrêtait le souffle dans sa poitrine. La nuit est pleine de ces voix qui font peur. Il y a surtout les rameaux de certains chênes qui conservent en plein été les feuilles de l'autre année. Quand la brise les touche, ils sonnent secs, comme si la marche d'un homme les écartait tout d'un coup. Monsieur Lecoq, nous pouvons l'affirmer, n'en était pas à sa première affaire, mais il n'avait que 22 ans, et nous le verrons mûrir. Il arriva au taillis sans avoir rencontré âme qui vive. Le cheval brouté, la carriole était à son poste. Monsieur Lecoq poussa un soupir de soulagement quand il reprit possession de son pantalon à carreaux, de son gilet brillant et de sa fine jaquette. Le plus fort était fait, manifestement. Le sang-froid revenait. Ce fut d'un air déjà crâne qu'il posa sur l'oreille sa casquette de voyage. Quelques minutes après, Coquet, qui n'était lui ni plus ni moins fier qu'auparavant, galopait sur la grande roue. À une demi-lieue de là, Monsieur Lecoq mit pied à terre. La nuit était encore épaisse, bien que l'Orient prît déjà cette teinte grise qui annonce l'aube. Il y avait, à gauche du chemin, une ferme où tout dormait. Monsieur Lecoq attacha une pierre à sa culotte de cotonnade bleue roulée en paquet. Il franchit la murette de la cour et jeta son paquet dans le puits. Quand il eut accompli ce dernier soin et que Coquet reprit le galop, Monsieur Lecoq siffla, ma foi, un air de vaudeville en dénouant son fameux foulard. J.B. Schwartz aussi suivait ce même chemin, à pied et livré à des réflexions mélancoliques. Il songeait à ses 100 francs et remettait en prose la fable du potolé de Perrette. De temps en temps, le potolé se cassait au choc d'une pensée triste. Ce mauvais plaisant de Lecoq s'était peut-être moqué de lui. Les voyageurs de commerce pratiquent la mystification avec frénésie pour compter ensuite leurs exploits à table d'hôte. 100 francs, rien que pour éviter les suites d'un rendez-vous galant. Il y a bien des grands seigneurs qui ne couvrent pas si fastueusement leurs équipés. 100 francs. Quel commerce allait-il établir? 100 francs comptant. Il se sentait monter au front la sereine fierté des capitalistes. En quittant son homonyme, le commissaire de police, J.B. Schwartz avait flâné un petit peu le long des rues désertes. Il avait même regardé l'orne qui passait sous le pont poursuivant sa route vers la mer. Ainsi fait la monnaie, disséminée dans les pauvres bourses. Elle va toute, mais toute, par une pente naturelle et fatale, vers ces caisses opulentes, vastes rivières qui réunissent les filets d'or épars. En fait d'argent, J.B. Schwartz était un penseur et un philosophe. Il avait deviné la loi de gravitation qui pousse les sous vers les louis. Il sortit de camp vers minuit. 3 heures de ténèbres à tuer, c'est plus qu'on ne le pense. J.B. Schwartz s'assit bien des fois sur le bord du chemin, agitant cette question suprême. Aurais-je mes 100 francs? N'aurais-je pas mes 100 francs? Il arriva au lieu du rendez-vous bien longtemps avant le moment fixé. Il attendit. À mesure qu'il attendait, l'espoir diminuait. Car les Schwartz, de provenance directe, sont gens de bon sens avant tout, et la conduite de Monsieur Lecoq outrageait la vraisemblance. 100 francs. Pourquoi 100 francs? Moyennant un 1000 louis, Monsieur Lecoq eut acheté de même la complaisance de J.B. Schwartz, à supposer néanmoins qu'il s'agit d'une chose honnête. Notons bien cela. Pour obtenir de J.B. Schwartz une chose déshonnête, dans le sens légal du mot, 100 000 francs n'auraient pas suffi. Ce chiffre de 100 francs riait au nez du prudent et sage alsacien. Ça ne pouvait être qu'une cruelle plaisanterie. Si vous saviez comme il avait peiné depuis qu'il était hors de Guebwiller, sans jamais réussir à mettre de côté les 20 larges pièces blanches qui composent cette somme de 100 francs. Et pourtant, si ce Lecoq était fou, autour des Halles, à Paris, il y a des banquiers en plein air qui sont les bienfaiteurs des 4 saisons. L'usure n'est qu'un mot selon les meilleurs esprits, et les timidités du code à son égard sont le symptôme de la dévotion moderne. Gêner le bon plaisir de l'or, si respectueusement que ce soit, c'est blasphémer un dieu, le dernier dieu, le seul dieu qui ait un peu d'avenir désormais. Si l'usure est bonne une fois, pourquoi en proscrire l'habitude? Le bien érigé, en coutume, n'en vaut que mieux, ce nous semble. J.B. Schwartz se vit un instant philanthrope à la petite semaine, activant les transactions des innocents. Grâce à l'intérêt modeste de ces mouvements de faux populaires, 100 francs deviennent aisément 1000 écus en 12 mois. En 12 autres mois, 1000 écus bien employés peuvent donner une 50aine de 1000 francs, pertes comprises. Alors on quitte le carreau, on aborde l'escompte pour le petit commerce. Vaste champ, où chaque sou, coupé en 4, donne ses fruits et ses fleurs. Mettons 10 ans d'escompte mercière. Le mignon a mûri, on le cueille. Et c'est une gracieuse chose que l'entrée dans le monde du mignon ignoré, tout jeune ayant encore le duvet de la pêche. Or, comment allons-nous manœuvrer notre mignon dans les hautes sphères de l'industrie fashionable? Nous sommes loin des piliers des innocents. La petite boutique nous inspire un juste dédain. Forgeons-nous 100 lieues de rail ou accaparons-nous des sacs de farine? Les idées les plus naïves sont les meilleures. On pourrait, rien qu'à faire du vin avec des pelures de pommes... Mais ce Lecoq n'était pas fou. Mais pour avoir le mignon, il fallait les 50 000 francs. Pour les 50 000 francs, les 1000 écus. Pour les 1000 écus, les 20 pièces de 100 sous de Monsieur Lecoq. Hélas, hélas, le potolé dispersait encore une fois ses tessons dans l'ornière. Et J.B. Schwartz s'éveillait, le cœur serré, se disant « Voici le jour qui vient. 3 heures doivent être sonnées. Monsieur Lecoq s'est moqué de moi. » Un bruit de roue et le galop d'un cheval. J.B. Schwartz se leva, tout frémissant d'espoir. On entend de bien loin, à ces heures solitaires où la campagne dort. Entre ce premier son et le moment où la silhouette d'une voiture apparut dans les gris, l'espérance de J.B. Schwartz eut le temps de chanceler plus d'une fois. Mais la voiture ne se montra pas plus tôt qu'elle était déjà sur lui. Elle allait à un train d'enfer. Monte, Jean-Baptiste ! Dit une voix connue. Une main vigoureuse le saisit en même temps par le gras du bras. C'est à peine si le petit Breton s'arrêta. J.B. Schwartz, soulevé et cédant quelque peu, se trouva lancé au fond de la carriole, pendant que le fouet claquait gaillardement, et que Coquet, redoublant de vitesse, fuyait parmi les tourbillons de poussière.